Oh, la raison.
Bah oui, Nicolas, mais enfin, on ne déclenche pas une guerre mi-juin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la fin de saison. J'avais apporté du Yop et des pépitos. Patrick, un Uno, Domi, une bonne paye. Et on se retrouve à causer Troisième Guerre mondiale avec l'ambassadeur d'Iran. Je dis non, mi-juin, on vient. D'accord, mais on fait des jeux, on se détend. Vous savez, on parle toujours du summer body. Enfin, sauf Patrick qui est contre. Mais l'autre phénomène du mois de juin, tout aussi important, c'est le summer brain. Moi, ces trois dernières saisons, j'ai tout donné pour rebondir sur la guerre en Ukraine, le 7 octobre, Gaza. Là, je suis désolé, je crois que je suis rassasié par la connerie des hommes, Nicolas. D'ailleurs, comme l'épreuve de philo démarre dans une minute, j'ai envie d'offrir cette citation de Lao Tzu aux élèves de terminale qui nous écoutent. Lao Tzu qui, devant la déliquescence de l'Empire chinois, déclarait
« Plus rien à faire, plus rien à foutre. »
Ouais, c'est Lao Tzu, un cousin de Lao Tzu. Un penseur qui m'aura beaucoup marqué ces trois dernières années. Non, là, j'avoue que la guerre Iran-Israël, je ne l'avais pas vu venir. Et vous non plus. Je peux vous dire que Sonia, ça lui fait tout drôle de bosser une interview. Depuis son retour du Festival de Cannes, elle déroulait pépère avec des sujets fantasy. Et vas-y que je chante avec Julien Clerc. Et vas-y que je te reçois des ornithologues pour parler de Piaf pendant 10 minutes en plein prime time radio.
3000 martinets noirs, 800 guépiers d'Europe, 600 hirondelles rustiques, 20 busards cendrés,
un
pipite à gorge rousse. Le pipite. Donc.
C'était il y a 15 jours, pourtant qu'elle paraît loin, cette interview sur les pipites à gorge rouge. Le monde a à nouveau rebasculé dans l'horreur. Israël a frappé l'Iran, qui a répliqué, annonçant qu'Israël ne sera bientôt plus habitable. Et alors que ce week-end, le Moyen-Orient s'enfonçait dans le chaos, que tous les yeux étaient braqués sur Tel Aviv et Téhéran, où débarque Emmanuel Macron ? À nuque. Alors, désolé, j'ai pas de musique groenlandaise dans la base de Radio France, je vous ai mis Bibi Fock. Voyage qui se voulait un pied de nez à Trump, vu l'actu internationale évidemment, chou blanc, hein, tout le monde s'en fout, Macron en combo col roulé par canoir, on aurait dit Laurent Wauquiez en deuil. Même Patrick Cohen a préféré parler des socialistes que de cette visite au Groenland, et pourtant, quand t'es éditorialiste politique, faut vraiment qu'il n'y ait pas d'actu pour que tu parles des socialistes.
Fichu métier.
Oui, et vous aussi, vous étiez passé en mode summer brain, Patrick, c'est normal. Ce conflit Iran-Israël tombe vraiment au pire moment pour tous les professionnels du commentaire, qui n'ont pas la tête à ça. Faut inscrire les gosses aux activités périscolaires pour la rentrée, verser les arts pour la location de la villa au Cap Ferré. Je vais lui dire, moi, dans le couloir à l'ambassadeur, que ça nous arrange pas. En tout cas, bonne chance ce matin à tous ceux qui passent la philo. Mon petit conseil, prenez la dissertation, hein, parce que ça a fuité. On a déjà le thème du commentaire de texte, je cite « Expliciter ce qu'a voulu dire Lao Tzu dans cet édito du 14 mars 2025 ».
Alors à ce stade, soit François Bayrou sait déjà où il va et ce qu'il veut, soit il ne le sait pas. La seule chose que moi je sais est que je ne sais pas s'il le sait. Ou s'il ne le sait pas.
Injouable. Même lui, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Prenez la disserte.
Et merci Mathieu Noël. France Inter, 8h02. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dans la poudrière du Moyen-Orient, les frappes continuent entre Israël et l'Iran. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. Après une nuit aux abris, les missiles iraniens ont fait de nouvelles victimes. On entendra aussi les témoignages d'habitants de Téhéran sous le feu des bombes israéliennes. Et puis on verra comment Donald Trump aurait dissuadé Benjamin Netanyahou d'assassiner le guide suprême iranien.
Et bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Le grand entretien dans 20 minutes.
Trois invités à 8h20 pour essayer de comprendre ce basculement historique du Moyen-Orient, cette nouvelle guerre qui recompose la région et ses rapports de force. L'ancien ambassadeur Gérard Haro, la correspondante diplomatique du Figaro Isabelle Lasserre et le rédacteur en chef de L'Orient le Jour, Anthony Samrani, seront avec nous.
Et vos questions au 01 45 24 7000.
La une ce matin, c'est aussi la philo, première épreuve écrite du bac pour les terminales. De plus en plus d'élèves, 10 notamment, bénéficient d'aménagements. On va l'entendre avant de parler énergie, puisque la trajectoire de la France entre nucléaire et renouvelable est au menu de l'Assemblée. Du grand bazar au BHV à Paris, les fournisseurs du grand magasin attendent toujours d'être payés. Et de Cléopâtre qui fascine et qui s'expose à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
France Inter.
Des salves de missiles tirées sur Israël au petit matin. Nouvelle réplique de l'Iran aux frappes israéliennes. Quatrième matinée de guerre entre les deux pays. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Florence.
Vous êtes à Jérusalem pour France Inter. Une fois encore Thibault, la défense anti-aérienne d'Israël n'a pas arrêté tous les tirs iraniens.
Non, 5 impacts cette nuit vers 4h du matin et encore une fois c'est le centre d'Israël qui a été visé. 5 morts, 92 blessés selon la Magen David Adom, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge. Bilan évidemment provisoire, la ville de Petah Tikva, c'est à l'est de Tel Aviv, a été touchée comme le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak. Bnei Brak, c'est à 8 km au nord de Bat Yam où 8 personnes sont mortes dans les mêmes circonstances il y a 24 heures. J'ai pu rencontrer sur les lieux de l'explosion Alex. Alex est un survivant. Son appartement a été soufflé au milieu de la nuit.
C'était à 3h du matin. Il y a eu cette frappe, je dormais. Je me suis réveillé parce qu'un éclat a brisé le verre des fenêtres et est entré. Tout le bâtiment a tremblé. L'explosion a été puissante. L'Iran ne devrait pas frapper Israël. Ce n'était pas dans leur plan. Israël a frappé le premier. Et maintenant, les deux puissances se répondent. Il va y avoir encore plus de dégâts, encore plus de morts. C'est terrible. Cette guerre n'était pas nécessaire.
Parole rare, Florence, dans une population qui vit depuis vendredi matin au rythme des alertes, mais qui soutient pourtant dans sa grande majorité l'action du gouvernement.
Alors justement, Thibault, Israël continue de pilonner l'Iran. 224 morts depuis vendredi. Israël avertit ce matin que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes du régime. Or, ces dernières heures, c'est quoi, Thibault? Ce sont les installations de missiles, c'est ça, qui ont été particulièrement visées?
Oui, notamment parce que c'est un des trois objectifs annoncés de l'armée israélienne. D'abord, détruire ces lanceurs de missiles et donc limiter la capacité de riposte iranienne. Le deuxième but de guerre consiste à endommager le programme nucléaire. Selon un responsable israélien cité dans le Wall Street Journal, l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz a été démolie en profondeur. Et puis le troisième objectif consiste à décapiter la hiérarchie militaire. Trois hauts commandants ont été tués dimanche.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem, l'Iran, où les mosquées, les stations de métro, les écoles servent désormais d'abri pour la population quand elle n'est pas confinée chez elle. William Delesseux, des témoignages d'Iraniens vous sont parvenus. Ils souhaitent rester anonymes car ils ne portent pas toujours le régime des mollahs dans leur cœur.
Les frappes résonnent à plusieurs kilomètres autour de Téhéran, jusque chez Ava, 38 ans, qui tente de rassurer son fils de 9 ans. Elle habite à une quarantaine de kilomètres du centre-ville.
Des amis sont arrivés pour se réfugier chez nous il y a quelques heures à peine. Alors qu'on était sur le point de se coucher, les frappes ont repris. On a entendu, je crois, une quinzaine d'explosions. Le bruit était tellement fort.
Depuis le début des bombardements israéliens, Shahrzad, 41 ans, à Téhéran, ne sort presque plus de chez elle.
J'ai un mauvais pressentiment. Il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai peur. La vie est chamboulée. Avant, le quotidien était presque normal. On se plaignait du régime, mais ce n'était pas aussi angoissant, inquiétant que ce qui se passe maintenant. La guerre, c'est le pire du pire qui puisse nous arriver.
Les autorités ont rendu le travail à distance obligatoire. Kourosh ne peut plus ouvrir son commerce.
Avec tout ça, notre pays est plongé dans des conditions terribles, économiques, politiques, sociales. Je ne vois pas comment on va s'en sortir.
Opposé au régime, il indique n'avoir aucun regret pour les dirigeants qui ont été tués ces derniers jours dans les frappes.
Un témoignage reçu par William Delesseux. Les voix ont été modifiées. Le président iranien appelait tout à l'heure à l'unité du pays. L'Iran vient aussi d'annoncer avoir pendu un agent du Mossad arrêté en 2023. Trois jours de guerre depuis l'attaque d'Israël, officiellement pour empêcher l'Iran de se munir de l'arme atomique, mais aussi, et Thibault nous l'a dit, pour tenter de faire tomber le régime. Hier, c'est donc le chef du renseignement des gardiens de la Révolution qui a été tué. Depuis vendredi, les plus hauts gradés du pays sont tombés. Mais Benjamin Netanyahou visait apparemment encore plus haut, le guide suprême iranien lui-même, Loïc Loury, c'est Donald Trump qui l'en aurait dissuadé.
Assassiner le guide suprême, Donald Trump était contre catégoriquement, c'est ce qu'assurent en tout cas des responsables américains à plusieurs médias. Washington, explique-t-il, sous couvert d'anonymat, a donc demandé à son allié de ne pas passer à l'acte, alors qu'Israël, selon ces mêmes sources, disposait bien récemment d'une fenêtre pour abattre en cas de succès l'ayatollah Khamenei. Benjamin Netanyahou botte en touche, évoquant de fausses informations, mais sans démentir l'objectif d'un changement de régime à Téhéran. À la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, dit toujours croire à une solution diplomatique, même si dans le contexte actuel, cela ressemble à la méthode Coué. L'Iran et Israël, écrit-il, devraient trouver un accord et ils vont trouver un accord. Le président a court d'idées face à une situation qui lui échappe, se dit aussi ouvert à ce que Vladimir Poutine joue les médiateurs.
Idée balayée par Emmanuel Macron depuis le Groenland hier, dont personne en Europe ne pense qu'il est à vendre ou à prendre, dit le président venu soutenir ce territoire autonome danois que le président américain menace d'annexer, y compris par la force. 6 heures d'escale sur la route du G7 qui s'ouvre aujourd'hui dans l'ouest canadien. Les deux hommes auront alors l'occasion de se parler de vive voix. Arrêté après 2 jours de chasse à l'homme aux États-Unis, le suspect de l'assassinat d'une élue démocrate du Minnesota et de son mari est entre les mains de la police. Ce week-end, en se faisant passer pour un policier, il a aussi gravement blessé un sénateur démocrate et son épouse. Il a 57 ans, capturé dans une zone rurale de l'État. Une liste d'élus et de cliniques pratiquant l'IVG a été retrouvée dans sa voiture.
Il est 8h10, Florence, dissertation ou commentaire de texte.
530 000 élèves de terminale sont en train de se poser la question. L'épreuve de philo du bac vient de commencer, 4 heures à plancher jusqu'à 5h20 pour ceux qui bénéficient d'un temps supplémentaire pour cause de handicap ou bien de troubles du neurodéveloppement comme les élèves atteints de 10. Cette année, ils sont un peu plus de 110 000 à bénéficier d'un aménagement ou d'une aide. Sonia Princet, vous êtes allée voir comment ça se passe dans un lycée de Cachan, près de Paris, où ses élèves sont de plus en plus nombreux.
Dans son bureau, le proviseur adjoint Thierry Druet consulte son dossier aménagement d'épreuve.
La liste que justement le centre des examens nous donne, des élèves qui ont eu un aménagement. Pour les terminales, je suis en train de regarder le listing des terminales.
Ils sont 47, c'est plus de 10% des candidats dans ce lycée, avec des aménagements très divers.
En règle générale, le tiers-temps pour passer une épreuve écrite.
Donc ça veut dire, donc, par exemple, une épreuve de 4 heures.
Ça veut dire 1h20 de plus, ce qui peut être très lourd. Et puis, ça peut, pour certaines situations, demander des sujets sous une forme différente, des caractères plus grands pour des problèmes de vision.
Ou encore une aide humaine, un secrétaire pour rédiger ou un ordinateur. C'est le cas d'Athénaïs, elle est dysgraphique et utilise un clavier.
Ça m'aide considérablement parce que si jamais je n'étais pas sur ordinateur, les correcteurs ne pourraient pas déchiffrer mon écriture. J'ai été diagnostiquée assez tôt grâce à mes parents qui ont fait beaucoup de demandes pour les aménagements avec la MDPH.
Il faut en effet une reconnaissance de la maison du handicap ou bien la validation par une commission du rectorat. Mais certains parents n'obtiennent pas gain de cause, comme Virginie Matteau, c'était il y a 4 ans pour son fils dans l'enseignement privé sous contrat. Depuis, elle a fondé le collectif TND École pour les familles concernées.
À l'époque, il m'avait été dit que mon fils avait trop bonnes notes et que c'était pas normal qu'un enfant en situation de handicap ait trop bonnes notes. Des enfants d'ailleurs passent ce matin leur bac sans avoir ces aménagements alors qu'ils en ont toujours bénéficié dans le cadre de leur scolarité.
Les rectorats doivent faire le tri dans les nombreux dossiers avec la progression de l'inclusion scolaire. Ce droit à compensation est de plus en plus connu.
Un reportage grand format signé Sonia Princet. Pendant que les terminales passent le bac, les élèves de seconde entament 2 semaines de stage en entreprise. C'est obligatoire depuis l'an dernier. Quand un grand patron change de casquette, personne ne l'attendait, mais Luca De Meo quitte Renault après 5 ans à la direction générale du groupe qu'il a redressé et dont il a accéléré l'électrification. Selon le Figaro, il rejoindrait le groupe de luxe Kering de François Pinault. À quoi la France va-t-elle tourner d'ici 2050 ? Il est question d'énergie à l'Assemblée. Combien de nouveaux réacteurs nucléaires ? Quels investissements dans les énergies renouvelables ? C'est la fameuse programmation pluriannuelle que le gouvernement va faire passer par décret avant la fin de l'été, tout en discutant pour la forme à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée, avec cette proposition de loi portée par le socle commun. Parmi les sujets qui divisent, le nucléaire, les insoumis et les écologistes sont contre. Le RN, au contraire, pousse pour développer massivement la filière. Quant aux socialistes, Lise Rosevey, ils espèrent faire aboutir une ligne d'équilibre.
La charnière, voilà le rôle qu'entendent jouer les socialistes. Karim Ben Brahim, député de Loire-Atlantique et monsieur Énergie au parti, lance un message.
Pour faire adopter ce texte, le gouvernement a 2 possibilités. Ou bien regarder du côté du Rassemblement National, ou bien regarder les propositions du Parti Socialiste.
Investir dans les réacteurs existants pour prolonger leur durée de vie et construire 8 nouveaux EPR, bien loin des 40 voulus par le RN, les socialistes défendent une posture d'équilibre, un dosage entre énergie verte et nucléaire.
On a besoin d'investir bien évidemment massivement dans les énergies renouvelables, mais on a pris un retard. Et on sait aussi qu'un certain nombre de réacteurs vont arriver en fin de vie d'exploitation. Si
on n'investit pas notamment pour prolonger la durée de vie de ces réacteurs, alors on aura un problème d'équilibrage entre la production et la consommation, et ce qui peut aussi avoir des conséquences sur le prix de l'énergie.
Le PS a arrêté une position de groupe. Le nucléaire a pourtant longtemps divisé le parti, comme le rappelle le député du Calvados, Arthur Delaporte.
J'ai le souvenir d'un secrétaire de section socialiste en 77 qui démissionne du parti parce que le parti n'est pas assez clair sur son opposition au nucléaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un moment où on peut avoir un discours raisonné sur le nucléaire, un discours qui est un peu plus dépassionné.
Un discours pragmatique aussi qu'il défendra dans l'hémicycle, malgré ses réticences sur le nucléaire.
Lise Roseveille, puisqu'on est à l'Assemblée, on apprend que le groupe macroniste ne votera pas demain le projet de loi de simplification qui prévoit notamment de supprimer les ZFE. Que se passe-t-il au BHV, célèbre bazar de l'hôtel de ville rue de Rivoli à Paris? Selon nos informations, un an et demi après son rachat par la société des grands magasins, des fournisseurs attendent toujours d'être payés. On parle des marques qui ont des stands tenus par des vendeurs dans les magasins qui n'encaissent pas l'intégralité des ventes. Certains sont donc carrément partis. Maxime Deps, devant ce véritable bazar financier.
C'est le cas de Franck Allard, gérant de la société Au fil des couleurs, qui vient de remballer ses papiers peints. Ses impayés, dit-il, s'élèvent à 80 000 euros.
Nous ne sommes pas réglés, mais en plus, nous n'avons aucun élément nous disant quand nous serons payés.
Lui, qui a dû licencier 3 salariés, veut porter l'affaire en justice. Alors oui, contacter la société des grands magasins reconnaît certains retards de paiement liés au processus de reprise du BHV, mais ces retards pour Franck Allard seraient bien plus nombreux qu'on ne le dit.
C'est le cas de beaucoup de fournisseurs. Et puis lorsque vous faites un tour au sous-sol, vous apercevez que les stands sont à moitié vides puisque les fournisseurs n'étant pas payés ne peuvent pas se rachalander. On arrive à une situation catastrophique où on ne trouve plus rien.
Pour la direction, tout ça ne serait que temporaire avec de nouvelles marques qui doivent arriver. On l'espère tous, répond cette salariée, la voix modifiée à sa demande, qui, en attendant, ne reconnaît plus le BHV de ses débuts.
Enfin, on a l'impression de voir un magasin d'après-guerre. Enfin, la chaussure, la lingerie, vous n'aurez pas les tailles que vous voulez. Parce que mes collègues se retrouvent à ne plus commander, ne plus avoir de taille, et on perd des clients, clairement on perd des clients.
Des clients énervés de s'être déplacés pour rien, qui se défoulent parfois sur le personnel à bout, selon plusieurs témoignages. L'idée d'une grève a même été évoquée la semaine dernière, mise en pause pour l'instant.
Maxime Deps, nous avons un Français champion du monde de judo ce matin, c'est Johan Benjamin Gaba chez les moins de 73 kilos sacrés à Budapest hier soir après sa médaille d'argent aux Jeux de Paris. Pas de vacances pour le PSG après une saison de Ligue 1, une victoire en Ligue des Champions, les Parisiens font une entrée fracassante en Coupe du Monde des clubs, 4-0 face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, c'était à Pasadena dans la nuit aux États-Unis. Prochain adversaire Botafogo, le club champion du Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi. Enfin, tout ce que vous avez voulu savoir sur Cléopâtre est à l'Institut du Monde Arabe à Paris. D'Elizabeth Taylor à Katy Perry, en passant par Monica Bellucci, la dernière reine d'Égypte fascine toujours. Elle qui a su maintenir la cohésion de son royaume grâce à ses alliances et ses amours avec Jules César ou Marc-Antoine. La voici revisitée par une génération d'artistes, jeune génération, mythe et réalité autour de la souveraine, dont le nez, s'il eût été plus court, aurait pu changer la face du monde, Fanny Herbert.
La vérité, c'est que la taille du nez de Cléopâtre, on n'en sait pas grand-chose, avoue Claude Mollard, commissaire général de l'exposition.
Cléopâtre est une femme d'État, et non pas simplement une séductrice. Mais dont on ne connaît pas vraiment les traits, la figure, etc.
Et si on en a fait une femme fatale, voire manipulatrice, c'est surtout à cause des auteurs romains.
L'image noire ou rose de Cléopâtre résulte de la vengeance d'Octave, qui devient l'empereur Auguste et qui n'a pas supporté qu'une femme s'oppose pendant 20 ans avec succès aux menées impérialistes de la Rome.
Il faut attendre le XXe siècle pour qu'elle devienne aussi une icône des luttes pour l'indépendance, selon Iman Moinzadeh, chargé des collections.
C'est une icône pour le nationalisme égyptien, pour les luttes africaines-américaines et surtout, ça reste une grande icône féministe.
Ici, les artistes contemporaines s'emparent donc de cette icône à leur manière. Barbara Chase-Ribou et son imposant trône en bronze, ou Cindy Sherman avec ses photos qui déjouent les codes de la nudité.
Elles essayent de sortir de ce culte de la beauté qui lui a été longtemps attaché et de s'éloigner du physique pour revenir à son intelligence et son pouvoir également.
Une exposition qui éclaire d'un jour nouveau le destin de la dernière reine d'Égypte.
Voilà, le mystère Salamé. Ah bah non, pardon, c'est Cléopâtre. Le mystère Cléopâtre à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, jusqu'au 11 janvier 2026. Coquine.
Merci Florence Paracuelos. C'est moche, mais c'est drôle. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et Marie-Pierre, c'est encore instable sur les reliefs de l'Est matin.
La goutte froide Nicolas s'évacue vers les Dolomites italiennes puis l'Autriche, laissant encore derrière elle quelques averses à cause de l'air froid en altitude sur le relief vosgien, mais aussi sur le Jura, voire sur le nord des Alpes. Il y a aussi pas mal de nuages sur le massif central. On a aussi des brouillards ce matin sur les Hauts-de-France et dans la Nièvre. Des nuages qui se baladent encore près des régions des Côtes-de-Manche. Ailleurs, c'est soleil dès ce matin, avec dans le sud un ciel nuageux encore sur les Pyrénées, du vent, tramontane mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h, mais aussi sur l'ouest de la Corse sous un mercure qui fait le grand écart, pas plus de 5 dans la Marne et 6 à Blouerdu dans le Morbihan, encore qu'il fait 28 à Calvi, vous avez 7 à La Brionne dans la Creuse, mais 25 à Toulon.
Et vous m'avez écrit soleil pour cet après-midi.
Oui, pratiquement. Donc, Nicolas,
double soleil
pour tout le monde avec des températures qui seront agréables aujourd'hui avant la montée du mercure et la vague de chaleur attendue pour le milieu de semaine. Alors cet après-midi, l'anticyclone des Açores va prendre toute sa place, écartant les nuages, sauf encore près des côtes avec un effet de brise près de la Manche et de l'Atlantique. Et le soleil va s'imposer avec le Mistral et Tramontane près de la Méditerranée. Une averse encore possible sur le relief alpin et des valeurs également qui font le grand écart entre les 20 degrés attendus au Havre et 33 à Dauphin dans les Alpes de Haute-Provence. Comptez 24 à Strasbourg et Château-Landon, 26 à Paris et Lyon, 27 à Angers et Bordeaux, jusqu'à 30 à Sainte-Marie-de-la-Mer. Et en se rappelant, Nicolas, c'est le jour de la Saint-Fargeau, la lune se fait dans l'eau, le reste du mois est beau. Voir ce soir.
Oui, d'accord. Ok.
On verra.
Oui, il est bizarre celui-là, oui, hein, Marie-Pierre. Vraiment bizarre. 8h21.
Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Doba. Wahdahu min Souria. Ni primit. Sur France Inter.
Et c'est Géopolitique. Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous revenez sur la guerre au Moyen-Orient, Pierre.
Jusqu'où ira l'escalade entre Israël et l'Iran? En trois jours, les deux pays ennemis ont atteint un niveau de confrontation sans précédent. La guerre de l'ombre est devenue une guerre ouverte. L'État hébreu n'avait jamais mené une telle attaque contre le programme nucléaire et des cibles militaires et civiles iraniennes. L'Iran, de son côté, n'avait jamais réussi à frapper au cœur d'Israël, faisant des victimes civiles. La suite est à plusieurs inconnues et dépend des intentions réelles de l'Iran et d'Israël, évidemment, mais aussi de Donald Trump, qui parle plus qu'il n'agit dans cette guerre, qui contredit tout son discours pacificateur. La principale inconnue tient à l'objectif d'Israël. Se contentera-t-il, si l'on peut dire, de détruire le programme nucléaire de l'Iran ? Ou poursuivra-t-il jusqu'à l'effondrement du régime de Téhéran, à un changement de régime au relent néoconservateur? Que Benjamin Netanyahou souhaite la chute du régime des Mollahs ne fait pas de doute, il le dit ouvertement. Qu'il en ait les moyens est une autre question. On ne fait pas tomber un régime par la seule voie aérienne, mais on peut provoquer un chaos tel qu'un État s'effondre.
Et quelles en seraient alors, Pierre, les conséquences?
Aucun changement de régime provoqué de l'extérieur n'a produit de résultats positifs depuis plus de 30 ans. Ni en Afghanistan en 2001, ni en Irak en 2003, ni en Libye en 2011. Croire que la chute du régime de Téhéran sous le coup de boutoir israélien, quelle que soit la détestation que l'on puisse avoir pour ce régime oppressif, déboucherait sur plus de liberté pour les Iraniens, relève de l'illusion. Un effondrement du régime a toutes les chances de générer plus de chaos, d'où pourraient surgir d'autres oppresseurs. Israël en a la tentation, d'abord parce que l'Iran proclame depuis des décennies qu'il veut faire disparaître l'État hébreu, mais aussi parce que les éléments les plus messianiques du pouvoir israélien ont une vision apocalyptique de l'histoire au sens biblique du terme. Ils pensent que le chaos leur permettra d'atteindre leur objectif territorial et humain.
Et les États-Unis, Pierre, y sont-ils favorables?
Donald Trump, Nicolas, semble subir les événements plus que les initiés depuis quelques jours. Il ne se disait pas favorable à l'action militaire, mais à laisser faire et a même approuvé Netanyahou, qui le pousse désormais à s'impliquer plus. Aujourd'hui, il veut la paix entre Israël et l'Iran, mais au prix d'un accord de l'Iran sur l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Reste donc le pouvoir iranien. Il se dit prêt à arrêter la guerre si Israël en fait autant, mais c'est peu probable, sans certitude, que le programme nucléaire n'est pas détruit. En position de faiblesse, l'Iran a pris garde jusqu'ici de ne pas impliquer les États-Unis ou les pays du Golfe dans ses ripostes, dans une stratégie de survie de son régime. Est-il prêt pour autant à céder à l'ultimatum américain ? Cette crise majeure porte donc en elle un sérieux potentiel d'escalade qui occulte les efforts pour mettre fin à la tragédie de Gaza et qui torpille une fois de plus le droit international. La force, on le voit à chaque crise, est devenue le seul paramètre de ce nouveau monde et pas seulement au Moyen-Orient.
Pierre Aski, merci. Les invités du 7-10 ce matin, qui sera à votre micro dans une heure, Léa ?
Écoutez Nicolas, c'est l'histoire d'un film écrit par un grand réalisateur emporté par le cancer 7 semaines avant le début du tournage et qui a confié à son ami le soin de le réaliser à sa place. C'est l'histoire d'Enzo, un très très beau film qui sort ce mercredi de Laurent Canté, disparu l'an dernier, et réalisé par son ami Robin Campillo qu'on reçoit à 9h20. Je suis très contente de parler de ce film.
Et dans un instant, on poursuit l'analyse de la guerre entre l'Iran et Israël. Table ronde avec Gérard Haraud, Isabelle Lasserre et Anthony Samrani.
Hola à todos, vous faites quoi le 21 juin ?
Le Crédit Mutuel et France Inter donnent le la pour la fête de la musique.
Rendez-vous en direct de l'Olympia pour le concert de l'année.
Avec le flow singulier de Yamé.
Baby, moi chante la mélodie.
Et aussi Clara Luciani, Benjamin Biolay et Giorgio.
Ils vont vous faire danser jusqu'au bout de la nuit.
La fête de la musique à l'Olympia,
c'est ce samedi sur France Inter à partir de 20h.
8h25.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et c'est une table ronde que nous vous proposons ce matin avec Léa Salamé. Alors que l'escalade militaire entre Israël et l'Iran n'a jamais été aussi dangereuse et puissante, on va essayer de comprendre ce qui se joue au Moyen-Orient avec nos invités, Léa.
Gérard Haraud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis en Israël, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro, et à Anthony Samrani. Bonjour. Bonjour, journaliste, rédacteur en chef de l'Orient le jour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. La guerre donc a bel et bien commencé vendredi. L'armée israélienne a poursuivi cette nuit encore ses frappes sans précédent sur l'Iran, ciblant sites militaires et nucléaires. L'Iran a de nouveau riposté par des salves de missiles balistiques et de drones visant le territoire israélien. Gérard Haraud, comment qualifiez-vous le moment pour commencer ? C'est un basculement historique au Moyen-Orient, le début d'une guerre régionale, l'aboutissement d'une recomposition d'ampleur de la région. Vous diriez quoi ?
Moi, je verrais plutôt comme la dernière étape ou une étape supplémentaire dans une longue séquence où, à la suite des atrocités du 7 octobre, Israël a, d'une certaine manière, décidé de bouleverser l'ordre régional, considérant que le statu quo était insupportable. Et d'une certaine manière, jusqu'à maintenant, il a réussi de manière remarquable. Hein. On le voit bien au Liban, où est arrivé un nouveau gouvernement après les coups qui ont été portés au Hezbollah. On le voit bien en Syrie, où nous avons eu des nouvelles autorités syriennes après la chute du régime d'Assad, et maintenant ils s'attaquent à l'Iran. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous avons une accumulation de succès tactiques d'Israël, et la question qui se pose quand même, c'est qu'est-ce qu'Israël veut construire comme nouvel ordre ? On voit bien du militaire, mais quel est le politique ? Parce qu'une victoire, ce n'est pas seulement la victoire sur le champ de bataille, c'est la construction d'un nouvel ordre régional. Israël en a les moyens. Mais pour le moment, Israël, on n'a pas l'impression qu'il le veuille réellement.
Anthony Samrani, vous ouvrez votre article sur l'attaque israélienne du 13 juin à l'Orient le jour en disant « On savait le scénario possible depuis des années, on l'estimait très probable depuis quelques mois et on ne parlait que de cela depuis quelques jours. Et pourtant, l'attaque israélienne contre l'Iran a provoqué stupeur et tremblement dans tout le Moyen-Orient. Vous avez été médusé par cette attaque, par son ampleur. C'est-à-dire, même si vous le saviez, même si elle était dans les têtes, même si de plus en plus elle était dans les têtes, en fait, vous avez été sidéré. »
Oui, parce que quelque part, on se disait... Moi, j'étais convaincu que c'était un scénario inéluctable, inévitable, on y reviendra peut-être, mais on se disait toujours, ça n'arrivera pas parce que Donald Trump ne le veut pas, parce que Cela provoquerait une telle déflagration dans la région. Mais la guerre, elle n'a pas commencé jeudi. Je pense que c'est très important de le dire. La guerre, elle est là depuis des décennies entre ces deux acteurs. C'est une guerre qui se joue dans l'ombre. Et depuis jeudi, elle a pris une nouvelle dimension. Et c'est un moment qui, à l'instar d'autres guerres qui ont marqué l'histoire régionale, je pense à 48, je pense à 67, à 73, je pense à l'intervention américaine en Irak, en 2003. C'est une guerre qui va effectivement, quoi qu'il advienne, on peut déjà le dire, changer le visage de la région. C'est probablement la fin de l'ère iranienne. Et je comprends qu'on puisse s'en réjouir compte tenu de ce qu'a été l'Iran dans la région. Mais c'est aussi le début de l'ère israélienne, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant.
C'est de cette ampleur. Vous avez cité tous ces conflits. Ce qui se passe en ce moment est de cette ampleur.
Oui, c'est de cette ampleur, parce que la création de la République islamique en 1979 a été un tournant extrême. Moi, j'en étais convaincu parce que je vis au Liban, parce que j'ai vu ce que le Hezbollah faisait au pays, parce que j'ai vu ce que l'Iran faisait au Moyen-Orient. Ça a été, à mon avis, la puissance la plus déstabilisatrice au Moyen-Orient durant ces deux dernières décennies. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la puissance la plus déstabilisatrice au Moyen-Orient, c'est Israël. La puissance qui est en train de commettre à minima un nettoyage ethnique à Gaza, qui accélère la colonisation de la Cisjordanie, qui bombarde à sa guise et en toute impunité le Liban et la Syrie, qui veut redessiner les frontières de la région et sans, comme Gérard Araud le disait, sans avoir aucun projet politique autre que la loi du plus fort à offrir au peuple de la région, c'est Israël.
Isabelle Lasserre. Isabelle Lasserre, sur le choix du moment, sur la qualification du moment qu'on vit et sur l'ampleur de l'attaque, est-ce que vous vous attendiez à ça ?
Oui, je m'attendais à une attaque israélienne contre les installations nucléaires depuis longtemps. Je pense que ça ne pouvait pas se terminer autrement. Sur la définition du moment qu'on vit aujourd'hui, moi je vois les choses un peu de la même manière, c'est-à-dire que Israël a cessé en fait de répondre au coup à coup contre des groupes, et aujourd'hui s'attaque en fait à ce qu'ils appellent la tête de la pieuvre, c'est-à-dire qu'on a sous-estimé en Europe la puissance du choc qu'ont constitué les massacres du 7 octobre. Israël considère aujourd'hui qu'il est désormais absolument impossible de vivre près de tout groupe manipulé par les Iraniens, et qu'il faut aujourd'hui absolument décapiter ce régime qui en fait nourrit le chaos depuis très longtemps.
Donc pour vous ça
région.
Va continuer jusqu'à ce que le régime iranien tombe. C'est ça l'objectif de guerre, c'est faire tomber le régime
secrètement. Alors il y a un monde
ou l'affaiblir, c'est différent.
En fait, on n'en sait rien. Je pense que l'objectif d'Israël est de faire tomber le régime, mais on ne fait pas tomber un régime comme ça. Dans un monde idéal, il y a un monde idéal où le régime iranien tombe, les femmes iraniennes sont libérées, les Iraniens sont libérés, le Hezbollah, le Hamas et tous les affidés de l'Iran disparaissent.
Et ensuite, c'est la paix perpétuelle.
Voilà. Alors, l'idéal.
Vous êtes correspondante diplomatique depuis des années, vous y croyez sérieusement que l'Orient compliqué peut aller vers...
Quand on voit exactement...
Voilà.
C'est la même illusion des néoconservateurs américains en 2003, et on a vu le chaos que ça a entraîné en Irak. Donc, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, il y a des dangers d'escalade, des dangers de reconstitution du programme nucléaire iranien, et des dangers en plus de nouvelles hégémonie israélienne dans la région.
Vous écrivez, Gérard Araud, dans Le Point, que face à l'attaque de vendredi, une conclusion s'impose, je cite vos mots, « Israël dispose d'une supériorité militaire absolue qui en fait la puissance hégémonique du Moyen-Orient. » Point à la ligne, c'est aussi simple que ça.
C'est toujours plus compliqué que
mais en réalité,
en réalité, on le voit bien. Face à l'Iran, qui est quand même la grande puissance de la région, théoriquement, Israël fait ce qu'il veut. Il est maître du ciel iranien, il fait pleuvoir où il veut ses bombes. En revanche, et cela pour continuer sur l'idée du programme nucléaire iranien, ce qui est frappant quand même, c'est que Israël, pour le moment, n'a pas détruit le programme nucléaire iranien. Et je pense qu'il ne peut pas détruire le programme nucléaire iranien. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il peut peut-être le retarder d'un an, deux ans, de trois ans, mais il ne peut pas le détruire. Et deuxième élément...
C'est-à-dire, c'est pas suffisant de taper la centrale de Natanz, qui est la plus grande du pays. C'est pas suffisant d'éliminer les six plus gros scientifiques du programme nucléaire. C'est pas suffisant.
Moi, je signale,
pour bloquer le...
Je sais bien, je suis le dernier à parler de droit international dans ce monde, hein, mais je signale que détruire la centrale de Natanz est une violation du droit international. Frapper des installations nucléaires est interdit par le droit international. Bon, ça, c'est une anecdote, visiblement. Sinon, il y a l'essentiel du programme nucléaire est maintenant enterré à Fordo, qui est situé sous une montagne. On voit bien que les Israéliens ne l'ont pas attaqué, et je pense que c'est parce qu'ils ont besoin des Américains pour le faire, qui seuls ont les armes nécessaires. Et moi, si je termine là-dessus, moi, honnêtement, si j'étais Khamenei, ce qui est une hypothèse un peu folle, je dirais demain, il faut qu'on se munisse de l'arme nucléaire. Parce qu'on oublie une chose, c'est que l'Iran, jusqu'à maintenant, tous les services de renseignement occidentaux en étaient d'accord, l'Iran n'avait pas avancé dans la voie d'une arme nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, après ce qui se passe, eh bien, la logique, c'est il faut avoir l'arme nucléaire.
Isabelle Lasserre ?
Oui, alors moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. L'Iran était un pays au seuil du nucléaire, et si Israël a frappé le programme nucléaire iranien, c'est justement parce que pour éviter que l'Iran se dote un jour de l'arme nucléaire.
Et on était à moins une, on était à moins deux, parce qu'il y a eu un rapport de l'AIEA la semaine dernière qui disait qu'on accélère, sur l'enrichissement d'uranium.
L'accélération avait commencé en 2018 quand Donald Trump s'était retiré de manière unilatérale du JCPOA, donc il n'a pas rendu service aux négociateurs européens. Tacitement, en fait, même s'ils ne le disent pas comme ça, les diplomates, la diplomatie française et européenne qui a pendant de si longues années essayé de freiner le programme nucléaire iranien par des négociations ne condamne pas, en fait, cette attaque contre le programme nucléaire iranien. Le problème, c'est que en fait, on est arrivé à un tel degré de connaissance, en fait, d'aboutissement du programme nucléaire iranien, c'est que on ne peut pas effacer la connaissance, on ne peut pas effacer le savoir-faire. Donc, on peut effectivement détruire Natanz, on peut assassiner les scientifiques, on peut détruire toute plein d'installations. On peut pas atteindre Fordo, mais moi j'attends de voir, parce que visiblement Netanyahou a dit qu'il avait encore dans sa poche il a sous-entendu hier qu'il pouvait y avoir d'autres manières que les bombardements pour attaquer les installations clandestines. On va voir à la fin ce qu'il arrive vraiment à faire ou pas. Mais de toute façon, la connaissance sera là. Donc, effectivement, dans 4 ans, dans 5 ans...
Ils auront la bombe.
Oui, mais les Israéliens disent, eh bien, même ça, c'est mieux que rien. Ils ont toujours fait comme ça. Le virus informatique Stuxnet, en 2010, avait fait prendre 3 ans de retard au programme nucléaire iranien en abîmant les centrifugeuses.
Hein. On peut aussi négocier. On avait négocié en 2015, ouais. Ça avait marché, et Donald Trump était en train de négocier.
En 2025, ça marche encore, la négociation.
Donald Trump était en train de négocier. Oui. Les Israéliens ont quand même tué le négociateur iranien. C'est quand même extraordinaire. Le chef de l'équipe de négociation iranienne, les Israéliens l'ont tué alors qu'il allait rencontrer les Américains deux jours plus tard. Pourquoi pas négocier ? Ça a marché une fois, ça pouvait marcher.
Il n'y a plus que vous, Gérard Araud, hein, qui défendez la négociation, le droit international et le multilatéralisme. Vous n'êtes plus très nombreux en 2025.
C'est aussi la stratégie de Donald Trump actuellement, la négociation. Lui est convaincu que, en raison des bombardements israéliens, l'Iran va finir par faire des concessions importantes et accepter de capituler. Qu'est-ce que ça veut dire capituler aux yeux d'Israël ? C'est renoncer à ses ambitions nucléaires et renoncer à ses prétentions régionales, à savoir l'exportation de ses missiles et de ses milices.
Mmh. Est-ce qu'on sait le rôle des Américains là ? Dans ce qui se passe, est-ce qu'on sait s'ils ont été prévenus par Benjamin Netanyahou, s'ils ont donné le feu vert ?
On ne sait pas exactement à quel point il y a eu une coordination. On sait par contre que, un, Israël ne peut pas détruire le programme nucléaire iranien seul. Et on sait que ce qui fait aujourd'hui que l'Iran ne bombarde pas, n'utilise pas ses alliés dans la région, le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes, même si le Hezbollah est très affaibli, et ce qui fait que l'Iran, pardon, ne tape pas directement les pays du Golfe, qui seraient une cible facile et qui provoquerait
un embrasement généralisé
des prix du pétrole, c'est parce que l'Iran veut absolument éviter de jouer le jeu israélien, c'est-à-dire entraîner les Américains dans cette guerre. Vous posiez la question tout à l'heure, quel est l'objectif israélien ? Le plan A, c'est entraîner les Américains dans cette guerre pour détruire complètement le programme nucléaire iranien et peut-être faire capituler le régime. Moi, je pense que le régime change à l'israélienne, c'est ça, c'est la capitulation du régime. Ce n'est pas nécessairement mettre quelqu'un à sa place, et ce n'est pas un projet néoconservateur dans le sens où il n'y a aucun objectif démocratique derrière tout ça. Et le plan B israélien, c'est si les Américains ne nous aident pas, on le fera avec nos propres moyens. Mais si l'Iran tient, si l'Iran ne cède pas au bout de quelques semaines, est-ce qu'Israël peut tenir des semaines et des mois comme ça ? Mais est-ce que la guerre ne va pas finir par être comme celle de Gaza, c'est-à-dire montrer les limites de la toute-puissance de Netanyahou ?
Et l'Iran peut affronter une guerre longue où c'est, comme on le dit parfois, un tigre de papier ?
Le régime iranien est extrêmement affaibli. C'est-à-dire, c'est un régime qui est totalement isolé diplomatiquement, qui a un stock de missiles qui est limité. On estime environ à 2000. Donc, s'ils en envoient 100-150 par jour, au bout d'un moment, ça va se terminer. C'est un régime qui est honni par une grande partie de sa population, qui est complètement infiltré. Et c'est pour ça qu'Israël a réussi à mener toutes ces opérations. Mais, et j'insiste beaucoup sur ce mais, c'est un régime extrêmement résilient et dont l'appareil sécuritaire est très important. C'est-à-dire qu'il y a l'armée, il y a les gardiens de la révolution, il y a la milice Basidji. On parle de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui sont armées et qui sont prêtes à défendre ce régime. Donc il ne va pas s'écrouler du jour au lendemain et il peut... La question
c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu des révolutions internes en Iran, les derniers, ces femmes, vie, liberté. Et à chaque fois, on se disait, ça y est, il va tomber ce régime. Et non, il tient ce régime iranien.
On ne tombe pas quand l'appareil sécuritaire est aussi fort et qu'il n'y a pas ni opposition armée, ni intervention extérieure. La question, à mon avis, essentielle aujourd'hui côté iranien, c'est Khamenei va se dire quelle est la meilleure chance de faire survivre le régime. Est-ce que c'est l'option nucléaire, ce qui est possible, mais si le problème c'est que s'ils essayent d'avoir la bombe nucléaire, les Américains interviendront et ça sera la fin du régime iranien, ou est-ce que c'est un éventuel accord, mais un éventuel accord où l'Iran ne veut pas être totalement à genoux. Donc moi je n'exclus pas que tout cela finisse par un accord diplomatique, mais ça ne change pas la grande image entre guillemets de l'histoire que nous racontions tout à l'heure.
Oui, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré « Nous, nous sommes prêts à négocier avec les Américains, si, évidemment, si les Israéliens arrêtent leurs attaques. » Donc, ce qui veut dire à la fois, c'est appeler au secours les Américains, à quel point le régime est dans les cordes, évidemment, il ne peut pas faire grand-chose, et deuxièmement, qu'il est prêt pour survivre à sans doute accepter des compromis. Et le point central, et moi j'ai été négociateur sur le problème nucléaire iranien, qui est un sujet qui nous poursuit depuis 20 ans, c'est une capacité d'enrichissement en Iran. Parce que les Iraniens veulent garder une capacité d'enrichissement pour sauver la face. Dans l'accord de 2015, il y en avait un très encadré, une capacité d'enrichissement, et la négociation avec les Américains, qui était conduite avant l'attaque israélienne, portait justement sur ce point, puisque, en réalité, la négociation avançait, il restait à régler le problème de enrichissement ou pas en Iran.
Les Américains, Isabelle Lasserre, Gérard Haro, que veut Donald Trump ? C'est bon, la question un peu lancinante, bon courage. Mais là, sur ce sujet-là, est-ce qu'il est pris de court ?
Donald Trump change d'avis en permanence, et Donald Trump, jusque-là en politique étrangère, depuis qu'il est revenu au pouvoir, il a échoué absolument dans tout ce qu'il a entrepris. Alors aujourd'hui, il est complètement coincé entre sa volonté de d'éteindre toutes les guerres au Moyen-Orient et dans le monde, parce que c'était quand même sa promesse en politique internationale. Et non seulement il a réussi à en éteindre aucune, mais il y en a de nouvelles qui s'allument. Et là, il dit en même temps, on va négocier, et en même temps, il dit, je n'exclus pas de participer à la guerre israélienne contre l'Iran. Donc il est complètement pris entre ces deux feux, ces deux jambes de sa politique étrangère sur ce sujet en particulier. particulier. Et en fait, le problème, c'est qu'il est, il est pas à l'initiative. En fait, il a été à l'initiative dans la première partie de son mandat, très, très actif en disant, je vais faire plier Poutine, je vais,
Oui, il a pas arrêté la guerre en Ukraine.
Etc. Et en fait, il est trimballé par les événements. C'est-à-dire que son manque de connaissances, sa politique erratique, cette espèce d'illusion qu'il a, fait que, en fait, il se fait trimballer. Il s'est fait manipuler par Poutine. Il se fait entraîné par Netanyahou, et en fait, on a l'impression que, même en politique internationale, le pouvoir lui échappe.
Gérard, vous êtes d'accord ?
Trump. Oui, vous savez qu'il avait, quand même limogé son conseiller national de sécurité, parce que le conseiller national de sécurité était favorable au soutien à Israël. Donc, naturellement, Donald Trump ne veut pas être entraîné dans l'affaire israélienne, et je suis d'accord avec Isabelle, il n'est plus maître du jeu, il est entraîné, il est ballotté par les événements, mais fondamentalement, il voudrait essayer de reprendre la négociation.
Question de Michel sur l'application Radio France. Chercheur sur l'Iran, que pensez-vous de la posture de la France dans cette crise ? N'est-elle pas hors jeu ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron a déclaré que la marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective. La France ?
Alors moi j'ai posé la question à un haut diplomate il y a un an. Je lui ai dit que le jour où Israël attaquera les installations nucléaires iraniennes, qu'est-ce qu'on fera ? Et la réponse qui m'a été donnée à l'époque, c'était il y a un an, était on fera comme au mois d'octobre 2024, quand Israël a été attaqué par l'Iran, on interviendra en soutien d'Israël, mais en deuxième rideau, pour protéger Israël de la réponse iranienne. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Israël et la France ont des relations absolument exécrables. Apparemment, la France n'a pas été sollicitée pour participer à la défense d'Israël. Et on a une politique en zigzag de la part d'Emmanuel Macron.
Anthony Samrani.
Le problème de la politique française et plus généralement européenne aujourd'hui, c'est qu'elle est totalement inconséquente. C'est qu'il n'y a aucune colonne vertébrale. C'est-à-dire que, partons du fait que l'Iran était au seuil du nucléaire et partons du fait que c'était une menace importante. Imaginez si la Russie avait été à la place d'Israël, si la Russie avait tapé les infrastructures nucléaires iraniennes. Est-ce que les Européens auraient dit la Russie a le droit de se défendre ? Est-ce que les Européens auraient applaudi la manœuvre ? Est-ce qu'ils auraient fait totalement abstraction de ce que la Russie est en train de faire en Ukraine ? Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au moins Donald Trump, malgré tous ses défauts, a une forme de cohérence. Il dit c'est mes intérêts, c'est la loi du plus fort. Les Européens sont incapables de faire un choix. Ils mentent au monde et ils se mentent surtout à eux-mêmes entre soit c'est Israël, notre allié, c'est notre principal allié pour des questions historiques, politiques, géopolitiques, etc. Et nous le suivrons jusqu'au bout. On ferme les yeux sur toutes les violations du droit international, on ferme les yeux sur le sort des Palestiniens, on s'en fiche complètement. Soit on considère que non, il est dans l'intérêt de l'Europe de défendre le droit international partout et tout le temps. Il est dans l'intérêt de l'Europe de régler la question palestinienne parce que c'est une question explosive, y compris en Europe et particulièrement en France. Et dans ce cas-là, on traite Israël comme tout État qui se comporte comme cela, c'est-à-dire comme un État paria, c'est-à-dire qu'on arrête tout accord avec lui, on le sanctionne et on lui fait comprendre qu'il ne peut plus continuer comme ça.
Gérard Haro.
Amen. En d'autres termes, non, c'est une évidence, il y a une violation du droit international. De nouveau, je suis ici la statue du commandeur du droit international, il y a une violation du droit international par Israël, qui est évident. Je rappelle, parce qu'on parle toujours de l'Iran au seuil nucléaire, je suis désolé, mais... Même la CIA disait que l'Iran, il y a encore un an et demi de travaux pour parvenir à construire une arme nucléaire, et l'Iran n'a pas commencé à faire une arme nucléaire. L'attaque israélienne est une violation flagrante du droit international, et je ne comprends pas comment les Européens peuvent l'avoir approuvé. D'ailleurs, aujourd'hui, la Finlande sauve l'honneur parce que la Finlande dit qu'elle condamne les attaques israéliennes sur l'Iran. Ce n'est pas parce que vous êtes méchant, comme le régime iranien est méchant, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, L'attaque israélienne est illégale et les Européens sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont. L'Europe devrait être la voie quand même de l'ordre international, du droit international et non pas la voie de la force. La force est en train de balayer les relations internationales et dans ce jeu, l'Europe ne doit pas essayer d'y jouer un rôle finalement assez misérable, mais doit essayer de rappeler des principes et des valeurs.
Ouais, tout ça, une phrase, c'est bien beau tout ça, mais le problème c'est qu'il n'y a plus que l'Europe qui défend le droit international, et défendre le droit international quand la force est en train de se répandre partout sans soi-même se doter des moyens d'avoir cette force, ça revient à cracher dans un ballon. Enfin, je veux dire, ça marche pas, quoi, ça ne marche plus. Ça marchait encore il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on s'opposait à la guerre américaine en Irak, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de défendre que le droit international si on n'a pas la force.
Vous ne servez à rien, Gérard.
Je ne suis pas d'accord. D'abord, un ambassadeur, c'est toujours décoratif. Et puis ensuite et surtout, il y a 190 pays qui, eux, ne veulent pas être partis de ce jeu. Vous avez l'Indonésie, le Brésil, le Mexique. Vous avez le reste du monde qui ne veut pas jouer la force. Les Européens, nous devons leur parler face au retour des empires.
Merci à tous les trois.
On n'a pas fini d'en parler. Merci à tous les trois.
Gérard Araud, Isabelle Lasserre, Anthony Samrani. Il est 8h49.
France Inter, partenaire de Enzo, un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo.
Enzo,
16 ans, apprenti maçon à La Ciotat, cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale.
C'est un petit bourge que ça raconte des histoires, c'est tout.
Sur les chantiers, avec Vlad, un collègue ukrainien, Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
J'ai pas envie de cette villa, ces trucs. Tout le monde fait la fête comme si tout allait bien.
Enzo, avec Éloi Pohu, Pierre-Francesco Favino et Élodie Bouchèze, au cinéma le 18 juin, un film France Inter.
La revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter. Le 7-10.
Et Claude, vous nous parlez d'un aveu.
Qu'a lâché un jeune homme prénommé Samuel sur un groupe Instagram où entre amis, on parlait de poker, de séries télé, de foot, jusqu'à ce jour de février 2022 où Samuel, qui des 6 copains était le plus intense, a écrit ceci. Je me suis jamais senti aussi léger de ma vie que quand j'ai vu la sienne quitter ses yeux. On ne peut pas pousser mon pote à la mort sans que je le venge. Ayant dit cela, ayant reçu la surprise des autres, t'as potentiellement dessoudé un mec. On doit réagir comment à ça? Samuel débrancha ses réseaux sociaux et puis fut arrêté quand un des copains alla voir les gendarmes. Il sera jugé à partir d'aujourd'hui à Mont-de-Marsan. C'est Le Monde qui raconte sur son site cette histoire infiniment triste que Sud-Ouest résume également. Le 26 septembre 2019, 2 ans et demi avant ses aveux, Samuel était allé à vélo chez Guy, père de son ami Danaël, qui avait été un lycéen charismatique, puis s'était assombri, et qui, à 20 ans, octobre 2015, s'était assis sur les rails du TGV. Après le jus d'orange, trouvant Guy narquois, envahi par les images de son ami mort, Samuel tue à Guy. On appelle ça un fait divers, on peut le négliger dans la marche du monde, mais en même temps, c'est une plongée dans la destruction de nos âmes. La mère de Danaël avait semé des graines de poison dans l'esprit de Samuel, lui confiant que c'était la révélation de la dépradation de son père, adepte caché du chemsex et des parties fines homosexuelles, qui avait amené Danaël à se tuer. Des années à remuer cela dans un cerveau brillant trempé au cannabis. Samuel a-t-il été Raskolnikov, le tueur habité inventé par Dostoïevski? La justice a 3 jours pour comprendre une mort. Un meurtrier, quel luxe quand on meurt si souvent sans pourquoi. Dans Le Parisien, nous vient Rio, adolescent de 16 ans, footballeur, solaire et engagé, militant de la violence dans son chouette quartier pas loin de Stockholm et qui a été tué en mars dernier par un autre garçon du même âge. Il revenait, c'était un dimanche soir du sport, et l'on ne comprend pas comment Rio est devenu une victime collatérale de la guerre des gangs que subit la Suède. 14 000 membres de gangs pour 10 millions d'habitants. Je lis que la mort de Rio serait liée à un gang appelé Foxtrot, dirigé depuis le Moyen-Orient par un homme qu'on surnomme le renard kurde et par un autre gang d'Alem dont le chef, surnommé le Grec, se trouve au Mexique. Je lis que sur Internet en Suède, des commanditaires qu'on appelle Kill Everyone ou Hitler recrutent des ados qu'on envoie tirer à la Kalachnikov sur des portes, arroser un quartier, exécuter une cible et les mômes lâchent leur partie de FIFA pour aller défourailler. Je vous épargne les détails mais je suis sidéré par la ressemblance avec ces meurtres que l'on connaît chez nous et par la dérive d'un pays, la Suède, qui fut doux.
Et on parle de mère.
Dans Le Figaro, qui nous dit qu'en dépit de l'exemple que donne Madame Meloni, première ministre qui souvent dit qu'elle est une mère, les Italiennes ne font plus d'enfants. Le taux de fertilité est de 1,18 enfants par femme et à ce niveau, il est difficile de faire marche arrière. L'hiver démographique est là. Mais ce n'est pas l'horreur du monde qui dissuade les femmes d'enfanter, mais la question sociale, la peur de ne plus pouvoir se construire. Je lis aussi que le catholicisme italien n'a pas imposé, comme en France ou en Espagne, un modèle de famille nombreuse bourgeoise pratiquante. Mystère des cultures, parlons donc, tiens, de nos croyants les plus ardents sentants. La Montagne et ses journaux frères du groupe Centre France, le populaire La République du Centre, Lyon Républicaine, mettent en une un prêtre en soutane et tonsure et constatent une vague traditionnaliste sur le catholicisme français. La Croix nous dit en écho que les jeunes catholiques inquiètent leurs aînés tant ils sont justement attirés par le conservatisme et des pratiques très strictes. Dans le groupe Centre France et dans La Croix, le même sociologue, Yann Raison du Clusiou, explique cela. La vague tradie est portée par la sécularisation de la société. L'Église devenant minoritaire, ses jeunes adeptes cherchent une identité forte à quoi s'accrocher, éloignée d'une société qui bouge loin d'eux. Le sociologue oppose des écoles catholiques traditionnelles sous contrat, ouvertes à tous, aux écoles tradies hors contrat qui cultivent l'identité. Du coup, vous allez lire dans l'Indépendant avec intérêt cette plongée dans une école à Fanjeaux dans l'Aude qu'animent des dominicaines intégristes en rupture avec le Vatican, où l'on forme des femmes complètes dans une identité catholique, où l'on réussit le bac littéraire, où l'on enseigne aux filles la cuisine, la couture, la docilité, la pureté, la simplicité et la foi, et en histoire, en primaire, beaucoup la guerre de 100 ans. Des anciennes élèves racontent au journal l'enfermement et l'emprise. L'Indépendant se promène ainsi d'autres articles sur le site du journal sur la progression tradie dans ce vieux département. Et on parle, Nicolas, vous allez me le dire,
de
enfin
sculpture.
De sculpture. Et tout est lié, car dans le télégramme, vous lisez une association qui marie l'art et le catholicisme. Ars et Chapelliou Broléon organise chaque été un circuit culturel dans 16 chapelles du Léon. Et cette association avait proposé au sculpteur Bernard Nicolas, qui pétrit l'argile pour créer des visages de céramique, d'exposer à la chapelle Saint-Éloi à Plou-Daniel. Le sculpteur avait façonné des personnages suppliants en quête de miséricorde et s'était inspiré d'un vers de Baudelaire. On m'a donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Est-ce la poésie ? En avril, la commission d'art sacré diocésaine a retoqué le projet que le prêtre de la paroisse a trouvé morbide et décalé. Je dis que la paroisse a été confiée à une communauté nommée Saint-Martin, tradie, dont le site Les Jours, il y a 3 ans, dans une série nommée Les Ensoutanés, racontait les pratiques et l'influence, décidément. Allons, pour nous remettre, voici l'histoire d'une demoiselle légère comme l'air à la une de Midi Libre, dont le nom gracieux vient de Santos Dumont, aviateur des temps premiers de l'aviation, qui a enduse acheter des bambous pour son aéroplane que des passionnés, le club aéro des Garrides à Saint-Pétipolis-du-Fort, ont reconstitué à l'identique. À la dernière de Libération, j'en termine. Lisez cette fois une dame que le Figaro, elle, le Parisien, m'ont aussi raconté. Shizuko Kimura, qui à Paris dans le 18e, c'est chez moi, a repris un restaurant que son époux, maître en sushi, avait créé et fait étoiler avant de mourir. Elle a abdiqué sa propre existence par dévotion, par fidélité. Et Libération, journal moderne, s'interroge. Jusqu'où peut-on sacrifier sa propre vie et ses envies par amour ? À quel point est-il possible de s'oublier pour faire briller le souvenir de quelqu'un d'autre ? Peut-on être heureux en endossant le destin et les désirs d'un défunt ? Toutes ces questions sont les poses une nuit de printemps, déambulant dans les rues vides de Montmartre. Mes amis, Montmartre, c'est un bon endroit pour penser.
Merci Claude pour cette revue de presse. Mathilde Serrel, à vous pour un monde nouveau ce matin, les dessins animés libertariens.
Bonjour les enfants, je vous présente Bitty le Bitcoin. Lui, il est gentil, parce que les méchants gouvernements, un jour, ils se sont mis à imprimer de l'argent à partir de rien, ce qui a créé de l'inflation, et c'est comme ça qu'on ne peut plus faire ses courses. Je vous résume l'intrigue d'un des épisodes du dessin animé Turtle Twins, qui devrait être diffusé à partir de juillet sur la chaîne publique jeunesse argentine Paca Paca, ai-je pu découvrir dans le courrier international. Bitty, le Bitcoin, est l'un des personnages de ce programme dédié à l'idéologie libertarienne. Je résume, la liberté individuelle, c'est la valeur absolue et l'État est une puissance coercitive dont il faut limiter le rôle au maximum. Élu président de l'Argentine en 2023, Javier Milei s'est présenté comme le premier président libertarien de l'histoire. Voici donc le dessin animé qui va permettre aux petits Argentins d'être éduqués dans l'esprit de son programme.
C'est un effet secondaire du socialisme, un système dans lequel tout le monde est obligé de payer pour des biens et services, qu'on en bénéficie ou pas. Et ça rate encore et encore.
Peut-être qu'on ne l'a pas bien fait.
Tout le monde dit ça.
La voix que vous entendez, c'est celle de grand-mère Gabi, qui a grandi à Cuba et raconte aux jumeaux Totol, un garçon et une fille, les ravages du modèle socialiste anticapitaliste. Grâce à sa chaise roulante, Gabi voyage dans le temps avec ses petits-enfants et rencontre plein de penseurs qui ont inspiré le libéralisme, comme John Locke au XVIIe siècle ou Friedrich Hayek au XXe siècle.
Et comme dans tous les dessins animés, il y a un gros méchant.
Et ça n'est pas la tronçonneuse, c'est Karl Marx, toujours en train de demander de l'argent. Un hypocrite, maître de l'extorsion, qui refuse de reconnaître les conséquences de ses idées dans les pays qui l'ont appliqué à l'extrême, comme en URSS. Et puis, comme tous les méchants, il est ridicule.
Youhou, it's me, Karl Marx. I just need to say, do not watch Tuttle Twins.
Avec l'accent allemand. Dans les Tuttle Twins, on apprendra aussi que les familles monoparentales sont le creuset de la délinquance, car les Tuttle Twins, créés et lancés aux États-Unis, c'est l'idéologie libertarienne avec une touche ultra-conservatrice, adaptée des livres d'un admirateur de Javier Milei, Connor Boyack, et produit par le studio Angel, qui est dirigé par des frères mormons. Le problème, au-delà des manipulations historiques, c'est que le président Milei avait critiqué l'État argentin et le péronisme pour son endoctrinement des enfants à l'école et à la télé publique. Alors le dessin animé tracte, ça passe mal.
Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête. Sophia Aram, bonjour, c'est à vous.
On est pacifique. Nous, on est pacifiques, ils ont des matraques, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Nova. Nous sommes en Égypte, où trois teubés, deux Marie Coquillette et un Jean Barnabé de la Marche pour Gaza tentent d'amadouer des Égyptiens en jetant du Allahu Akbar, tel un Christophe Colomb essayant d'apprivoiser l'autochtone en lui donnant du Aloha, brave indigène. Peu sensible aux théories décoloniales de nos révolutionnaires, tout droit sortis du master antispécisme intersectionnel et études de genre, voilà que le bon sauvage de leur rêve les accueille à coups de matraque, avant de leur arracher leur passeport. Un peu plus loin, la scène se reproduit avec un militant à bout de souffle implorant les policiers égyptiens.
For humanity, for Islam, done with your Islamic brothers and sisters.
Pour l'humanité, pour l'islam, soyez solidaires de vos frères et sœurs islamiques. Un argumentaire qui, malgré toute la compassion du militant de gauche, ordonnant aux policiers de se désolidariser avec ses frères et sœurs islamiques, donc, n'aura pas convaincu l'officier indigène qui poussera l'ingratitude jusqu'à remettre nos Tintins au Congo de la cause décoloniale dans le bus du retour. Lacan disait, la réalité c'est quand on se cogne. Une leçon de vie que ne semblent pas avoir apprécié nos militants altermondialistes quittant l'Égypte en criant
« Vous êtes des sionistes de merde, vendus des pourritures, c'est pas des musulmans !»
Sionistes, vendus, pas musulmans, mais